Heureux d'être avec vous, merci pour votre accueil. On va partager la parole de Dieu, lire un passage et méditer bien sûr sur ce que Dieu nous dit, sur ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et il va utiliser un événement, une circonstance, comme on peut y être confronté de diverses manières. On va aller faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Et on va lire là 9 versets. Donc, évangile de Luc au chapitre 13. Je vais faire un peu comme le 20h, vous savez. On va relire les événements de l'époque. Il n'y avait pas de journaliste, mais il y avait des événements qui se passaient et qui se rapportaient et qui se racontaient. Et on va s'arrêter là, puisque c'est les informations qu'on va rapporter à Jésus. On va le lire ensemble. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il eh bien du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Ah, des événements, il y en a toujours eu tout au long des siècles, du temps, des événements dramatiques. Ce n'est pas sur cela que je voudrais m'arrêter, bien sûr, mais justement, faire comme le Seigneur, tirer instruction de ce qui se passe et de ce qui se produit. Ce texte relate ce récit de deux faits, dramatiques. Jésus le fait suivre aussi d'une parabole et sur justement l'agir patient de Dieu à l'égard de nous tous. Oui, nous le savons, des tragédies peuvent arriver. Mais vous savez, on est tous dans cette attitude, on pense toujours que c'est pour les autres. Et que nous, on peut toujours échapper. Hein. Mais quand ça nous arrive, nous sommes, frappés avec parfois davantage de force. Ça nous anéantit parfois. Et ce n'est pas que nous soyons plus insensés que les autres. Pourtant, ça nous arrive. Et nous lisons les journaux, on entend les journaux télévisés, le monde médiatique, on regarde la télévision, bien sûr, et on est bombardé de ces événements, de ces mauvaises nouvelles. Les horreurs, les tragédies, les catastrophes. Et c'est un peu paradoxal, à la fois on s'en plaint, mais on en est friand. C'est, comme je dis, c'est toujours étonnant dans le monde médiatique, personne ne s'arrête aux bonnes choses, vous savez, aux bons événements qui se passent, aux choses remarquables, où c'est si rare. Si vous regardez ce que fait le succès d'un journal, quel qu'il soit, c'est quand il rapporte des choses tragiques. Ça relate quand même un certain aspect de notre humanité, n'est-ce pas ? personne s'est lancée à faire un journal de bonnes nouvelles. Ou ceux qui ont essayé de le faire, ils ne sont pas allés loin. Pourtant, il y a tant de choses qui se passent dans le monde. Bénies. Tant de personnes qui sont secourues, protégées, où Dieu intervient de manière surnaturelle, où tant de personnes sont relevées, sont sorties de la maladie, ont été rétablies après un accident. Jamais personne ne s'arrête sur ça. Et là, on vient trouver même Jésus et on vient lui raconter. Ah, là, il s'est passé quelque chose de terrible. Des Galiléens ont été massacrés alors qu'ils étaient en train d'offrir des sacrifices. Et Jésus va en rajouter. Ah non, Seigneur, tu ne veux pas. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il le fait. Vous savez, on est nous-mêmes confrontés, personnellement, ou parfois au titre de la famille. On a dans l'entourage des personnes qui sont atteintes de maladies, qui sont confrontées à des incidents, à des événements parfois tragiques et douloureux. Alors qu'on y pense de manière inconsciente, on n'imagine pas souvent que ça puisse nous arriver, que nous, on va pouvoir y échapper. Nous marchons souvent tous dans la vie avec une certaine insouciance jusqu'au jour où, ben, malheureusement, l'impensable se produit. Et oui, ça ne se produit pas que pour les autres. Quand arrivent ces événements, ces catastrophes, nous réagissons souvent fortement parce que les malheurs de toutes sortes qui frappent les populations, le monde autour de nous, près ou loin, des individus en particulier, eh bien, parfois ça nous choque, bien sûr, parce qu'on n'est pas dénué d'insensibilité. La souffrance de ceux qui sont innocents, eh bien, souvent nous révolte. Des personnes fragiles subissent injustement certains événements et quelque part ça nous scandalise et il nous faut réagir parce que parfois c'est nécessaire pour pouvoir dire stop à certaines choses, des guerres ou que sais-je encore, ou certaines pratiques ou certaines politiques ou certaines philosophies amènent certaines choses. Il faut savoir aussi dire stop à certaines choses. Nous refusons le mal. Et beaucoup, eh bien, ça les révolte. Mais souvent, vous remarquerez, on se révolte contre Dieu. Avec cette fameuse parole, formule, « Ah, s'il y avait un bon Dieu !» Ça vient souvent, cette chose-là. Mais tout est-il du ressort de Dieu ? Je vous pose la question. Certaines choses ne concernent pas Dieu, Dieu n'est pas concerné, Dieu n'y est pour rien. Et c'est quand même étonnant qu'on le tienne responsable de certains actes de folie de certains humains. Mais nous sommes ainsi, nous refusons le mal, on se révolte souvent contre Dieu, parce qu'on le tient pour responsable. Et comme ça m'est arrivé de dire à des personnes qui me disaient « Ah, s'il y avait un bon Dieu !» Alors, telle chose vous est arrivée, il vous semble que Dieu n'a pas fait son travail. Mais est-ce que toutes les fois où il vous est arrivé quelque chose de bon, est-ce que vous en avez été reconnaissante à l'égard de Dieu ? Ben, souvent, non. Pourtant, si on veut appliquer la logique. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que leur malheur s'abat sur, que le malheur, de manière générale, s'abat sur celui qui est coupable. Et inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, je dirais, nous mettons souvent en lien ce qui nous arrive avec nos fautes. Oh, ces choses que parfois personne ne connaît, mais que nous savons dans notre fort intérieur, qu'on n'a pas été peut-être correct, c'est que on ne s'est pas bien conduit. Et souvent, quand il nous arrive quelque chose, on pense « Dieu me punit ». On le met en lien avec nos erreurs, avec nos fautes. Combien de fois on associe cette chose-là? Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Ça, c'est une chose que j'ai entendue je ne sais combien de fois. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas de cette nature-là. Vous savez, il y a des choses où c'est nous les responsables. Si tout à l'heure, en repartant, je me mets à rouler n'importe comment sur la route, si je me mets à rouler à gauche, si je ne respecte pas les feux rouges, si je me roule à 150 km/h, je m'expose. Et si forcément je respecte pas les normes, je vais exposer ma vie et exposer la vie d'autres qui n'y sont pour rien. Si je me laisse prendre par certaines addictions et que ma santé va en supporter les conséquences, trop manger ou mal manger ou manger avec excès, les analyses révéleront trop de cholestérol ou que sais-je encore. Et ça va amener des complications au niveau du cœur et dans d'autres organes. Il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. Il y a des choses, c'est vrai, elles se passent, on ne sait pas pourquoi. On n'en connaît pas la raison. Ça nous échappe complètement. Dans l'évangile de Jean, il y a l'histoire d'un aveugle de naissance. Et qui reprend un peu cette pensée, et on va poser la question à Jésus. Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Vous voyez la logique humaine face aux événements dramatiques de la vie. Vous savez, les malheurs de Job, vous avez entendu parler de lui. Ça va conduire ses amis... les bien-pensants de l'époque, on va dire, à croire qu'il avait manqué, qu'il avait offensé Dieu, qu'il était coupable et que, et en fait, dans le fond, il n'en était à rien. La chose n'était pas tout à fait comme cela. Ah, Job va. C'est un homme qui aimait Dieu, qui s'appliquait, et il va apprendre que même s'il s'était appliqué à bien se conduire, de par nature, il était un homme pécheur. Mais ce n'était pas en rapport de cela que l'épreuve lui arrivait. Ah, combien de fois nous faisons des liens comme cela, nous faisons des rapports avec ce qui n'est pas raisonnable et ce qui n'est pas juste. Dans ce récit que nous avons lu, on rencontre toujours ce même schéma de pensée. Ce qui arrive à ces Galiléens, là, en pèlerinage, ou encore à... cet exemple de ces 18 Judéens près de la tour de Siloé, pourrait-il qu'ils sont de grands coupables? Jésus demande alors à ceux qui rapportent les faits, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres pour avoir subi un tel sort, qu'ils étaient plus coupables que tous les autres? Combien de fois on est imprégné de par notre culture, notre éducation, de ces notions-là. Quand on vous a éduqué avec cette notion, parce que gamin, on a tous été les mêmes, hein. On en a fait de belles, hein. Des bêtises comme tous les gamins. Et puis les parents ou les membres de la famille, le bon Dieu va te punir. Quelle drôle de conception! Et après, dans la vie, quand on est confronté à des difficultés, forcément, on met certaines choses en lien, alors qu'il n'y a pas de raison. La réponse de Jésus est claire, parce qu'il rejette cette mentalité, cette conception des choses. Comme si certains avaient raison de se croire plus exemplaires que ceux sur qui le malheur s'acharne. Comme si, étant épargnés, ils étaient rassurés sur leur droiture et leur justice. Comme les amis de Job. Ils vont persister à accuser leur ami Job. Mais dis-le, allez, dis-le. Hein, tu caches des choses là. Tu ne nous dis pas tout, mais dis-le. Parce que ces hommes sont dans cette conception. Ils tiennent leur ami pour quelqu'un qui est droit, qui marche de manière intègre. Et ils se disent, si le malheur atteint cet homme, si droit, si... Mais ils ne vont pas l'avouer comme ça, mais alors nous, il va nous arriver quoi ? Toujours dans cette crainte, cette angoisse, que quelque chose nous tombe dessus. Mais on ne peut pas vivre comme ça, avec ce poids-là, ce fardeau-là, de cette crainte-là. Dieu désire nous donner de l'assurance et de la paix dans la vie. Et il veut libérer notre cœur de cette sorte d'inconnu où les choses pourraient nous tomber dessus parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait erreur. Quel lien établir entre ce qui nous arrive et notre situation de cœur ? Quel lien établir ? Mais il n'y a pas forcément de lien. Des événements tragiques frappe les gens indépendamment de leur valeur morale. Oui, si vous allez braquer une banque, il faudra assumer derrière. Si vous avez des gestes ou des actes coupables ou violents, il faudra assumer derrière, et bien évidemment. Mais Jésus nous amène à considérer les choses autrement. Il saisit l'occasion là pour envoyer à chacun d'entre nous, ceux qui l'écoutent en la circonstance, mais à nous aussi, là, tous, sans exception, nous sommes des êtres menacés. Oui. Parce que Jésus va plus loin. Parce que lui, il ne s'arrête pas simplement à nos actes coupable ou manqué, il va plus loin, il veut nous interpeller sur notre situation morale et spirituelle, de ce qu'en fait, dans le fond, nous sommes séparés de Dieu à cause de notre nature. Nous sommes des rebelles. Nous sommes, comme dit l'Écriture aussi, des êtres en guerre contre lui. Et de manière générale, nous sommes sous la condamnation. Nous sommes, et nous ne méritons que le jugement. C'est pourquoi Jésus dira, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, vous périrez tous. Et c'est là où le Seigneur va plus en profondeur. Il nous interpelle sur notre nature, de ce que nous sommes par nature. Il ne s'arrête pas qu'à nos actes ou à ce qu'on a fait de bien ou de mal. Nous méritons son jugement, sa colère. Jésus nous interpelle par ce qui arrive là physiquement à ces personnes qui perdent la vie et il nous interpelle aussi sur la réalité de notre situation spirituelle, de notre relation à Dieu. Et ce n'est pas le tout de vouloir chercher à échapper au malheur. Et c'est comme cela souvent que les hommes vont chercher toutes les protections possibles, inimaginables, passant par la superstition, toutes sortes de croyances, pour s'attirer eh bien, les faveurs protectrices afin que le mal ne nous atteigne pas. Mais c'est bien se compliquer la vie. C'est aller chercher des choses. Qu'est-ce que les hommes ne sont pas prêts à faire pour essayer d'obtenir une protection, une bénédiction, porter des objets qui auraient en eux-mêmes un pouvoir, aller pratiquer tel pèlerinage, aller... Jésus nous interpelle beaucoup plus simplement et nous invite à faire la paix avec Dieu, là, là, maintenant, sans plus de complications. Oui, le Seigneur veut justement nous interpeller dans notre cœur. Nous dire que tous les hommes sont trouvés devant Dieu coupables et dignes de condamnation, à moins qu'ils ne se repentent. Jésus invite donc ceux qui étaient là en train de l'écouter à une prise de conscience, à regarder à ce qu'ils sont dans l'intime d'eux-mêmes, à juger de la nature de leur état d'âme. En somme, à percevoir le sens de leur existence sous le regard de Dieu. Ce regard aimant de Dieu. Dieu qui est source de vie et de bonheur. C'est pourquoi Jésus nous interpelle sur la nécessité de revenir à lui. De se rendre compte de ce qui se passe. Que ces événements qui sont cités là servent d'interpellation pour nous dire, eh bien, je ne veux pas me rester dans la crainte l'inquiétude ou l'incertitude, mais de dire, Seigneur, j'ai besoin de me tourner vers toi. C'est ainsi que le Seigneur nous utilise ces événements. La mort, l'accident, la maladie est imprévisible pour qui que ce soit. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à un changement de mentalité. C'est pourquoi Jésus, dans Luc, pour citer ce verset au chapitre 5, verset 32, dira « Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs à la conversion. » Si face à la conscience pervertie qui est la nôtre de ce que nous sommes, si la conversion est possible, c'est grâce, je dirais, à l'action bienveillante, bienfaisante de Dieu qui, par son esprit, est en train de nous convaincre de lui donner notre vie. Par contre, si nous rejetons Dieu, si nous refusons, c'est s'exposer à la perdition. C'est marcher vers la mort, non seulement physique, mais spirituelle. L'amour de Dieu est offert et il continue à l'offrir. Mais rappelons-nous que nous n'avons que le temps de notre existence pour nous tourner vers Dieu et lui dire oui. Et le temps dont nous disposons, c'est que le temps présent. Le passé, il est passé, on n'y reviendra pas. L'avenir, et on ne l'a pas. Qui en a la maîtrise ? Personne. C'est de ce temps. Et saisissons l'occasion, justement, pour faire la paix avec Dieu. Je termine avec cette parabole, succinctement. Une image forte. Peut-être qu'il est un peu choquante. Par rapport aux éléments de la nature, ça nous semble normal, mais si à la place de ce figuier-là qui ne porte pas de fruits, vous y mettez la notion de votre personne et de votre vie, ça questionne un peu, non ? Ça interpelle. Pour dire qu'en tout temps, notre vie peut être coupée. Oui, on est là aujourd'hui, mais demain, on ne le sait pas. Mais le Seigneur veut dire au travers de cette image, qui est qu'une parabole, mais il nous interpelle très fortement, il nous parle de sa patience. Un vigneron patient. Il y a le propriétaire qui cherche du fruit sur ce figuier, de la même manière que Dieu cherche aussi auprès de chacun d'entre nous un fruit. C'est-à-dire la bonne attitude d'un cœur qui le cherche. Et le propriétaire a planté ce figuier, mais au bout de 3 ans, rien. Alors, pourquoi épuiser inutilement la terre ? Le propos peut être fort et nous interpeller. La sentence est rude. Coupe-le ! Mais le Seigneur est comme ce vigneron qui dit « Attends, patience. On va essayer encore de lui apporter du soin. On va essayer de lui apporter encore des éléments pour qu'il puisse porter du fruit. » On va apporter pour ses racines, on va creuser, on va apporter là des éléments nutritifs pour qu'il puisse être motivé. De la même manière, Dieu agit patiemment à votre égard, disposant à votre égard ses bénédictions, ses bienfaits, son attention, sa protection. Peut-être vous n'en avez pas conscience. Mais il œuvre dans votre vie, dans votre cœur, depuis déjà un certain temps, pour essayer de stimuler votre cœur à se tourner vers lui et à lui dire oui. C'est là où il faut se poser les questions sur le sens de votre vie. Après quoi courez-vous ? Se poser la question, où est-ce que j'en suis sur le plan spirituel ? La repentance est toujours le commencement d'une œuvre divine en chacun. Dans notre aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, oui, nous pouvons vivre avec l'assurance de la vie éternelle. Et nous devons, dans notre vie terrestre, faire face, bien sûr, à l'insatisfaction de ce que nous ne comprenons pas, de la souffrance, des difficultés, de la mort parfois, de nos fragilités. Mais Dieu est là et il nous soutient. Je termine par un verset de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 2. Au verset 4, il est dit « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme pour seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion ? Oui, Dieu patiente à notre égard. Et il utilise les événements de nos vies pour nous interpeller. Lui, il ne désire qu'une chose, faire la paix avec chacun. Il désire que votre vie soit en sécurité et que vous ne soyez pas à vivre dans l'incertitude, jour après jour, de la crainte de ce que des événements puissent se produire, que vous mettriez en lien avec des erreurs. Non, non, Dieu n'est pas comme cela. Il ne rentre pas dans ces logiques-là. Il désire simplement nous bénir. Alors, on ne va pas faire patienter Dieu davantage. On ne va pas user ou abuser de sa patience. À nous de lui répondre favorablement. On va prier le Seigneur maintenant. Seigneur mon Dieu, nous sommes là, arrêtés quelques instants sur ces événements, comme il peut s'en passer tous les jours autour de nous et parfois même dans nos vies. Seigneur, que cela nous serve d'interpellation, parce que nous sommes, Seigneur, des êtres fragiles et nous n'avons pas de pouvoir en nous-mêmes. Et nous sommes parfois ballottés par ces événements, parfois ces événements nous mettent, nous laissent sans force. Seigneur, ce sont des choses physiques, matérielles, qui touchent parfois le corps, qui touchent parfois la famille. Ce sont des événements, Seigneur, imprévisibles. Seigneur, tu nous interpelles sur notre fragilité, sur le fait que nous sommes là aujourd'hui, mais que dans le fond, nous pouvons passer. Et qu'en est-il de notre vie, de notre cœur ? Seigneur, tu nous invites à faire la paix avec toi, parce que nous sommes dignes de ton jugement à cause de notre nature rebelle. Seigneur, nous voulons réaliser que par notre vie, nous avons vécu, nous voulons vivre sans toi, nous voulons vivre comme étant capables seuls. Et ta parole nous dit que heureux les pauvres en eux-mêmes, ceux qui ne s'estiment pas capables et qui te font appel et qui te remettent leur vie. Nous voulons être dans cette attitude et avoir l'assurance que notre vie est entre tes mains et que c'est toi qui nous conduis, que c'est toi qui nous garde, que c'est toi qui nous donne force face aux éléments ou aux événements. Seigneur, je te prie de visiter maintenant, que chacun puisse répondre favorablement à l'interpellation et te dire « Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te prie pour chacun des amis qui sont là, visite-les dans ta grâce. » Et qu'ils ne tardent pas à mettre leur vie en règle avec toi et qu'ils éprouvent la joie de la réconciliation et de la paix et que dans leur cœur, il y ait cette grande assurance. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen.